Comme ça a été dit, je suis originaire des Ardennes, dans le 08, comme Madame Ribaud d'ailleurs. Et j'ai maintenant à peu près 32 ans de conversion. J'ai eu la chance de connaître le Seigneur de bonne heure. J'avais 15 ans quand je me suis donné au Seigneur. Et le Seigneur a fait son travail, a fait son œuvre. J'ai commencé à servir dans l'église locale. Et puis, de fil en aiguille, le Seigneur m'a appelé à son service. J'ai été présenté en région, pasteur stagiaire, pasteur reconnu. J'ai quitté les Ardennes pour aller dans les Vosges. Et puis en Alsace aussi, j'ai été pasteur pendant 4 ans en Centre-Alsace, à Célestat. Avant de partir, depuis bientôt 4 années maintenant, sur Madagascar, en mission, en répondant simplement à l'appel. Comme il est dit dans l'Évangile, ils laissèrent tout et le suivirent. Nous avons accepté de tout laisser derrière nous et de suivre le Seigneur. Mais je crois que ce n'est pas simplement pour les missionnaires de tout laisser de le suivre, mais c'est l'appel que nous avons tous en tant que disciples de Christ, n'est-ce pas ? Je suis marié, j'ai donc mon épouse Noémie, 3 enfants, Ruben qui a 19 ans, qui lui est déjà rentré en France, qui fait une faculté d'histoire à la Sorbonne à Paris. Notre fille Sarah qui a 17 ans, qui est en terminale et qui passe le bac cette année, qui va rentrer cette année en France aussi pour elle faire une faculté de psychologie. Et puis notre dernière Camille qui a 12 ans et qui elle est en 5e, va rester encore un peu avec nous. Gloire à Dieu. Voilà pour les présentations de la famille. Donc la famille se porte plutôt bien, ils ont plutôt une adaptation facile à Madagascar, on bénit Dieu parce que c'était pas gagné d'avance de partir avec 2 adolescents. Mais voilà, le Seigneur a fait grâce et le lycée français a été aussi une bonne aide pour eux. Ils se sont trouvés plein d'amis sur place, plein d'enfants de missionnaires et autres. Et donc du coup, ils ont pu faire leur petit bout de chemin sur place aussi. Et par la grâce de Dieu, ils se plaisent bien à Madagascar. Voilà. Donc, on remercie le Seigneur pour ça et ça nous a confortés dans notre appel. Alors avant de parler de Madagascar et de l'œuvre de l'ONG Europe Madagascar Afrique, je vous invite à ouvrir la parole parce que je crois que c'est peut-être encore le plus important que nous puissions partager dans la parole de Dieu, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. On va ouvrir dans l'épître de Jacques, s'il vous plaît, chapitre 2. Jacques, chapitre 2, les versets 14 à 17. Le thème de la pensée de ce matin, c'est être, dire et faire. Quelque chose de très pratique, de très pragmatique. Dieu nous appelle à être. Nous disons ce que nous sommes, mais est-ce que nous faisons ce que nous disons être ? Et c'est sur ça que nous allons réfléchir ce matin. Le texte nous dit « Mon frère, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ? La foi peut-elle le sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte. En elle-même. Amen. C'est pratique. Le Seigneur vient nous chercher ce matin dans ce que nous sommes et nous va nous poser des grandes questions auxquelles il faudra que nous puissions répondre dans notre fort intérieur, mais aussi par des actes. Qu'est-ce que je fais de ma foi ? Je proclame que je suis croyant, je proclame que je suis chrétien, je suis au bénéfice de la grâce, mais qu'est-ce que je fais pour manifester cette foi à l'extérieur ? Afin que les hommes le voient, afin que je puisse aussi répondre à la parole de Dieu. Il semble y avoir de tous les temps un genre de conflit entre l'épître de Jacques et l'épître de Paul, aux Romains notamment. Quand nous lisons Jacques chapitre 2 et Romains chapitre 4, il y a comme une opposition. Quand Paul dit que la foi sauve, alléluia, c'est bien ce qui nous a sauvés, c'est notre foi que nous avons placée en Jésus-Christ, dans son œuvre intégrale à la croix du calvaire, nous sommes sauvés. Amen. Il est vivant, nous l'avons dit tout à l'heure, il est mort mais il est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, il était les prémices de la résurrection et nous ressuscitons avec lui. Oui, mais Jacques dit aussi que la foi sans les œuvres, eh bien elle est morte en elle-même. Parce que si tu as la foi et que tu gardes la foi juste pour toi, c'est comme si on t'avait confié un grand trésor, que tu es devenu l'homme sûrement, et c'est ce que nous sommes en tant que chrétiens, les hommes les plus riches de la terre, hommes et femmes bien sûr, mais que tu gardes tout ça pour toi, c'est juste pour toi. Tu vois les gens qui à côté sont dans la misère, sont dans le besoin, et là on peut parler d'un besoin spirituel aussi évidemment, mais je ne partage pas, c'est juste pour moi, moi je suis content, je suis sauvé, alléluia. Eh bien ta foi elle ne te sert à rien. Puisque l'Église le but de l'Église, la vocation de l'Église, eh bien, c'est de partager l'Évangile. La vocation de l'Église, ce n'est pas de devenir une Église bocale, mais bien une Église locale, n'est-ce pas? Eh oui, souvent, malheureusement, nous devenons une Église bocale. On est des petits poissons, bien ensemble, on est contents, c'est super, on est assis là le dimanche matin, on se retrouve entre frères et sœurs, on prend un petit café, une petite part de gâteau, et c'est formidable. Mais c'est pas, on rate l'objet de l'Église si on agit comme ça. Puisque nous sommes appelés à être une Église locale, c'est-à-dire une Église qui rayonne dans la localité. Là où nous sommes, là où Dieu nous a placés, un phare qui brille. Et qui permet à ceux qui sont, bien évidemment, dans les ténèbres, d'avoir un point de repère. Mais si l'Église n'est plus ce point de repère, où trouveront-ils ce point de repère? La foi, sans les œuvres, est morte. Dans le même texte, au verset un petit peu précédemment de la lecture que nous avons fait, au verset 12, déjà Jacques disait « parlez et agissez ». Il ne s'agit pas seulement de parler, mais il s'agit d'agir, de mettre nos paroles en action. Et puis là, on l'a lu, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ?» Je crois que si nous ignorons le monde qui est autour de nous, nous trahissons la parole de Dieu. Comprenez bien ce que je vais dire. Si nous ignorons le monde, nous trahissons la parole de Dieu qui nous envoie dans le monde. Jésus a dit dans Jean chapitre 17, « Je ne te prie pas de les retirer du monde, mais bien de les préserver du malin. » Nous ne sommes pas des gens qui doivent nous replier sur nous-mêmes, ou alors on serait tous dans des couvents ce matin. Non, Dieu nous a mis dans ce monde afin d'y briller comme des lumières. Mais le Seigneur a prié pour nous et prie toujours pour nous. D'ailleurs, l'Épître aux Hébreux nous dit que Dieu intercède pour nous, Jésus intercède pour nous, afin que nous soyons préservés de l'état d'esprit du monde, de l'état d'esprit du malin. Mais nous sommes dans le monde. Et pourquoi nous sommes dans le monde? Eh bien, pour annoncer cette bonne nouvelle qui fait de nous aujourd'hui les gens les plus heureux de la terre, les chrétiens. Oui ou non? Est-ce que vous êtes heureux ce matin d'avoir la foi en vous? Est-ce que vous êtes heureux, encore heureux ce matin, après peut-être tant d'années de conversion, d'appartenir à Jésus-Christ? C'est ça la grande réalité. Mais si tu es heureux, tu le partages normalement, non? Quand on est heureux, c'est notre anniversaire, on invite plein de gens. Quand on est heureux, on va se marier, on invite plein de gens parce qu'on veut partager notre joie. Quand je suis devenu chrétien et que je suis heureux, j'invite plein de gens à partager la joie qui est la mienne. Celle qui fait de moi aujourd'hui un homme heureux. Heureux ne veut pas dire sans difficulté. Heureux ne veut pas dire sans peine. Heureux ne veut pas dire sans combat. Non. Mais c'est Christ qui a dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, celle qui surpasse toute intelligence et qui dépassera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. » C'est cette paix qui nous anime, oui ou non? Qui devrait, en tout cas, dans tous les cas. Et des fois, quand on voit les visages des uns et des autres sur nous, les chrétiens, on se demande si on est vraiment heureux. On se demande si vraiment Christ a fait quelque chose en nous. Alors, si nous ignorons le monde, nous trahissons la parole de Dieu, puisqu'elle nous envoie vers le monde. Mais en même temps, si nous ignorons la parole de Dieu au profit du monde, notre mission devient qu'une œuvre sociale. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'armée du salut, les trois S de l'armée du salut, soupe, savon, salut. Eh bien, avec le temps, ça s'est transformé en soupe et savon, c'est tout. Même s'il y a quelques années, ils sont revenus au salut aussi, gloire à Dieu. Mais pendant des années, c'est devenu juste une œuvre sociale. Ils distribuaient de la soupe, ils donnaient du savon, mais le salut n'était plus là. Et là, on trahit la parole de Dieu si on agit ainsi. Ce ne sont que des œuvres purement humaines. Oui, on fait du bien aux autres, mais... Et quand on cherche à travailler dans le social... Pardon ? Hein ? Ah, ça ne marche plus ? Bah, vous m'entendez, j'ai une voix qui porte. J'ai pas besoin de micro, mais...
Si, ah, c'est mieux. C'est trop fort, enfin bref.
Si on ne fait que du social, on trahit la parole de Dieu. Puisque quand on travaille pour l'Évangile, on parlera de Madagascar tout à l'heure, mais on ne va pas qu'aider les gens, on ne va pas que sortir les enfants de la misère, on leur annonce l'Évangile. Et les deux doivent être de pair, ou alors on trahit la parole de Dieu, mais en même temps, si on ne va pas vers le monde, eh bien, on trahit aussi la parole de Dieu. Puisque nous avons reçu l'Évangile, mais pas juste pour nous, pour le monde aussi. L'un ne va pas sans l'autre. Tu peux avoir la foi, mais si tu n'as pas les œuvres, ta foi est morte. C'est ce que dit Jacques. Hein. C'est pas moi qui ai inventé la parole de Dieu. Hein. Si vous avez un problème, vous vous adresserez à Jacques. Hein. Okay. Je crois que la grâce de Dieu est le battement du cœur de la mission, mais le battement, en fait, de chacun de nos cœurs. Nous devrions être normalement, je dis bien normalement, au diapason avec la parole de Dieu dans nos vies. quant à notre foi, quant à notre sainteté, quant à ce que nous sommes profondément, le modèle en Christ. Être, le titre de ce message, c'est être, dire et faire comme Jésus, comme vivait Jésus. Voilà le cœur de notre tâche intégrale. Voilà ce que nous devrions être. Être, dire et faire comme l'a fait Jésus. C'est le modèle divin, évidemment. Alors, Dieu a été bon avec nous. Il nous a donné l'apôtre Paul, il nous a donné d'autres modèles qui sont beaucoup plus accessibles que Jésus, n'est-ce pas ? C'est difficile de s'identifier au Christ, lui qui a été parfait en toutes choses. Mais nous avons des modèles comme l'apôtre Pierre, nous allons citer un texte de Pierre, comme Jacques, qui n'ont pas été parfaits dans leur humanité, mais qui pourtant sont des modèles. L'apôtre Paul le dira, « Soyez mes imitateurs comme moi, je suis l'imitateur de Christ. » Il est difficile de s'identifier à Christ en tant que tel. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce que Dieu nous a laissé des modèles. Comment puis-je dire que je crois en la parole de Dieu sans la mettre en pratique ? C'est bien une grande question, je dirais même que c'est un paradoxe. Je crois, ok, c'est super, mais qu'est-ce qu'il dit Jacques ? Les démons croient aussi, n'est-ce pas ? Est-ce qu'on démontre que non seulement nous croyons en la parole de Dieu, mais que nous la mettons en pratique justement ? Nous croyons par la foi que ce que Dieu dit est vrai, et nous l'expérimentons. Et l'expérimenter, c'est le mettre en pratique, n'est-ce pas ? On connaît bien ce verset qu'on cite par cœur, Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas et ait la vie éternelle. » Alléluia ! Ça, c'est un verset qu'on connaît très bien par cœur. Pourquoi ? Parce qu'on est au bénéfice de cela. C'est la grâce, n'est-ce pas ? La grâce que Dieu nous a faite. Et ce matin, nous pouvons bénir Dieu pour la grâce, puisque nous sommes au bénéfice de cette grâce. Oui, nous avons été sauvés parce que Dieu a envoyé son Fils unique. Mais est-ce qu'on connaît aussi bien 1 Jean 3, 16 ? Parce que Jean 3, 16, c'est la théorie, et 1 Jean 3, 16, c'est la pratique. Est-ce qu'on peut afficher 1 Jean 3, 16 ? Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous devons, nous aussi, donner notre vie pour les frères. Amen. On va le relire pour que vous puissiez vous en imprégner, parce que je n'ai pas l'impression que vous êtes convaincus ce matin quand même. Nous avons connu l'amour, Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde, il nous a bénis, il nous a aimés, il est venu nous chercher dans notre misère, il nous a sauvés. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères, imiter Christ. Nous disons pas, nous les évangéliques, Christ en nous, l'espérance de la gloire ? Il me semble en tout cas, j'ai quitté la France depuis 4 ans, donc peut-être qu'on ne dit plus ça maintenant. Et c'est le modèle de l'évangile. Qu'est-ce que nous faisons de notre foi ? Il y a la théorie, évidemment, mais ça, c'est comme tout le monde. On va à l'école, certains d'entre vous ont sûrement passé des diplômes, des licences, des masters, et je ne sais quoi encore, mais tout ça, c'est beau, la théorie, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Après, il faut bien travailler, à un moment donné. Il faut bien qu'on puisse mettre en pratique ce qu'on a appris, non ? Amen. Ouais, amen, dans le civil, ça va bien, mais qu'est-ce qu'on fait de notre foi ? Eh bien, Dieu nous appelle à la mettre en pratique de la même manière. Dieu ne nous a pas enseigné pour que nous devenions des puits de connaissances, des valises de théologie, non. À un moment donné, il faut les ouvrir, les valises. C'est comme si tu voyages, tu as tout le temps tes valises, mais tu n'ouvres jamais tes valises, tu te poses nulle part. Mais en tant que serviteur de Dieu, en tant que disciple de Christ, Dieu nous appelle à nous poser quelque part. Et Dieu nous appelle à répandre la bonne odeur de Christ. Mais pour ça, il faut que tu ouvres les valises. Pour ça, il faut que tu puisses passer de la théorie à la pratique. Être, dire et faire comme vivait Jésus. J'espère que ça nous parle ce matin. Parce que c'est vraiment ce que Dieu veut pour nous. C'est ça que Dieu veut pour nous. Bien souvent, nous sommes là dans nos réunions de prière et nous prions, et même dans nos moments d'intercession personnelle. Seigneur, c'est quoi ta volonté pour moi ? Seigneur, qu'est-ce que tu as comme plan pour moi ? Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et des seigneurs, il en entend tout le temps. Oui. Mais qu'est-ce que tu fais de la parole de Dieu ? Parce qu'il y a des fois, on voudrait voir de tellement grandes choses, on voudrait que le Seigneur nous envoie à tellement l'autre bout du monde. Puis Dieu nous dit, enfin moi en tout cas c'est comme ça que je reçois les choses, mais Dieu me dit souvent, mais tu fais quoi de l'enseignement là ? Est-ce que tu as déjà mis en pratique tout ce que je t'ai demandé là ? Parce que si tu fais ça, après on pourra avoir autre chose. Mais souvent on en est là et le Seigneur nous dit, tiens, aime ton prochain comme toi-même. Pff, écoute Seigneur, tu vois bien quoi, hein ? J'ai autre chose à faire quoi. Bah ouais, et pourtant. Est-ce que aime ton prochain comme toi-même n'est pas mettre ta foi en pratique ? Est-ce que ce n'est pas passer de la théorie à la pratique ? Ben si. On peut afficher le texte de 2 Pierre 5, 11. On va lire ce texte ensemble. L'apôtre Pierre va à peu près dans la même dimension que de ce que dit Jacques. Pierre dit, 2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 5, « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi à la vertu la science à la tempérance la patience à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et qu'elles y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont pas est aveugle. Il ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez point. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. C'est pratique. Alors, remarquons que Pierre ici ne nous dit absolument pas que les efforts que nous fournissons à affermir notre foi nous sauvent. Non. Puisqu'il sait très bien, Pierre, que c'est la foi qui sauve simplement. Mais Pierre nous dit, dans une autre mesure, que affermir notre foi par les efforts que nous fournissons nous évite de ne pas être sauvés. Nous évite de devenir oisifs et stériles. Quand on regarde ces deux mots, oisif, c'est être sans occupation. Et stérile, eh bien, c'est ne pas enfanter, n'est-ce pas? Si nous produisons tous nos efforts, comme le dit Jacques, pour ajouter à notre foi, eh bien, nous ne serons jamais sans occupation pour le royaume de Dieu, et nous allons enfanter des âmes pour ce même royaume. Nous ne serons ni oisifs, ni stériles. C'est-à-dire que nous allons mettre notre foi en action. Nous allons passer de la théorie à la pratique. De manière concrète, sûrement qu'il y en a parmi vous qui aiment faire du jardin, qui aiment la nature. Quand nous considérons une racine, prenons une racine de terre, on prend n'importe quelle racine, est-ce que quand on regarde la racine, on sait de quoi il s'agit comme arbre ou comme fleur ou... Alors peut-être pour les plus pointeux, oui, mais moi personnellement, absolument pas. Non. Quand je regarde juste la racine, ben ok, j'ai une racine en main, j'ai un truc que je viens de sortir de terre, mais quand l'arbre ou quand la fleur pousse, c'est là, à la vue, quand il y a de la croissance, qu'on voit quel type d'arbre, qu'on voit s'il est en bonne santé, n'est-ce pas? Un arbre fruitier. Moi personnellement, alors là c'est peut-être un peu plus facile pour certains de reconnaître l'arbre fruitier en fonction de la forme des feuilles et tout ça, mais même moi je ne suis pas capable de faire ça. Il me faut des fruits sur l'arbre pour savoir ce que c'est. Alors si je vois des pommes, je sais que c'est un pommier. Mais en même temps, si je vois des pommes en bonne santé, je sais que l'arbre aussi est en bonne santé. Mais si je ne considère que la racine, absolument rien dire. Est-ce que l'arbre est bon? J'en sais rien. Qu'est-ce que ça va être? Je ne sais pas. Non, il faut du fruit. Et c'est bien ce à quoi nous sommes appelés en tant que disciples, à porter du fruit. Ce matin, on a appuyé sur les boutons pour allumer les lumières. Alors je ne sais pas si vous savez, mais moi je ne sais pas comment fonctionne exactement l'électricité. Je sais que quand j'appuie sur un bouton, il y a de la lumière. Mais le fait qu'il y ait de la lumière me dit qu'il y a de l'électricité, n'est-ce pas? Eh bien le fait que je reflète Christ doit dire à l'extérieur que Christ est en moi. Mais si je ne reflète pas, s'il n'y a pas de lumière, comment les gens sauront que Christ est en moi? C'est de la théorie à la pratique. Regardez que, pour revenir sur Jacques et Paul, où il semble y avoir une opposition, eh bien, que ce soit dans Jacques chapitre 2 ou dans Romains chapitre 4, Paul et Jacques vont citer exactement le même exemple pour étayer leurs propos, ils vont parler d'Abraham. Que ce soit dans Jacques chapitre 2, à la suite de ce que nous avons lu, ou dans Romains chapitre 4, la foi et la foi avec les œuvres, ils citent le même exemple, Abraham. Il n'y a pas d'opposition dans la parole de Dieu. Il n'y a pas d'opposition. Au contraire, Dieu ne se repent pas de ce qu'il dit. Dieu ne se repent pas de ce qu'il fait. Peut-être nous avons dit que nous avions la foi, et peut-être tu as dit, mon frère, ma sœur, ou le jeune qui est là ce matin, mais j'ai la foi, moi je crois en Christ, ok, ok. Mais est-ce que nous l'avons démontré par des actes concrets ? Souvent nous sommes à l'ère de la communication, et avec Facebook ou autres réseaux sociaux, nous pouvons écrire ou communiquer avec des gens qui sont à l'autre bout de la planète, et on se rend compte qu'on n'est plus capable de dire bonjour à notre voisin de palier. Peut-être que ça ne vous concerne pas ici à Saint-Louis. Hein. Ça me montrait dans une espèce d'égocentrisme dans la société dans laquelle nous sommes. Et pourtant, la Bible nous dit que nous, les chrétiens, nous sommes appelés à aller dans le monde. À aller vers le monde. Remarquez quand même qu'aujourd'hui, ce n'est pas vraiment l'Église qui vient, le monde qui vient vers l'Église, c'est l'Église qui va vers le monde, qui doit aller vers le monde. Nous devons rejoindre les gens là où ils sont et leur annoncer la bonne nouvelle. Mais souvent, nous sommes devenus tellement égocentriques que même nous, les chrétiens, on préfère se faufiler et même pas dire bonjour à celui qui est à côté. De peur qu'on soit agressé ou je ne sais quoi encore, mais... Je ne suis pas sûr qu'on reflète encore le modèle des évangiles, n'est-ce pas ? Je ne suis pas sûr qu'on reflète encore ce que Dieu veut vraiment pour nous. Voilà un enchaînement de verbes pratiques. Être, dire et faire. Qui peut changer beaucoup de choses dans nos vies personnelles, mais aussi dans la vision de l'Église. Et pour le royaume de Dieu, évidemment, le salut des âmes. Puisque quand tu commences à faire ce que tu dis, et quand tu dis ce que tu es, eh bien les choses vont bouger. Les choses vont bouger, puisque par la foi, eh bien tu vas oser. Par la foi, comme Pierre, tu vas sortir de la barque et tu vas commencer à marcher sur les eaux. Comme on dit aujourd'hui avec cette petite ritournelle bien connue, on va sortir de sa zone de confort. Et à un moment donné, il est temps de sortir de son canapé, hein, chers frères et sœurs. Nous allons voir avec quelques vues du diaporama qu'ici nous vivons d'opulence. On se plaint, on se plaint, on se plaint, on se plaint, mais de quoi nous plaignons-nous ? On est ce matin réunis dans un super local, il fait une bonne température, les gens sont là, on est libre, on n'a même pas d'opposition à se réunir. Mais de quoi nous plaignons-nous au juste ? On va rentrer, on a tous à manger à table, on est venus tous en voiture, on a tous un téléphone portable dans la poche. On se plaint de quoi ? Non, mais excusez-moi, hein, mais on a pris beaucoup de leçons depuis qu'on est à Madagascar. On a surtout appris que notre consommation, c'était un grand n'importe quoi. On a surtout appris à faire confiance plus à Dieu encore. On a surtout appris à se remettre en question. On s'est reposé sur nos fondements de la foi. Qu'est-ce qu'est notre foi ? Qu'est-ce qu'est notre prédication ? Qu'est-ce que nous sommes au juste, nous, les chrétiens européens ? Non pas que ce que nous faisons n'est pas bon, mais je crois que le confort dans lequel nous sommes, malheureusement, nous empêche de voir la gloire de Dieu. Nous empêche de voir des choses plus grandes puisque nous faisons plus confiance à des médecins et au confort dans lequel nous sommes qu'à Dieu lui-même. Et ça, c'est une réalité. Qu'on soit ici ou ailleurs, hein, croyez-moi. Et le Seigneur nous appelle à autre chose. Savoir qui nous sommes, c'est important, n'est-ce pas ? Être au présent de l'indicatif, ça commence par quoi ? Je suis. C'est une bonne question de savoir qui nous sommes, non ? Est-ce que je sais aujourd'hui qui je suis ? Parce que ça commence par là. Avant de pouvoir dire et faire, il faut d'abord savoir qui je suis. Qui j'étais et qui je suis devenu. Si toutefois il y a eu l'œuvre de Christ en nous. Mais savoir qui nous sommes, eh bien, je crois que le meilleur moyen, peut-être, si je suis un chrétien racheté en règle avec la parole de Dieu, alors je sais qui je suis. Si je connais Dieu tel qu'il est, si je le connais comme un père, je sais qui je suis devenu enfant de Dieu. Amen. J'espère que je ne vous l'apprends pas quand même ce matin, parce que ça m'inquiète là, de vous voir un petit peu stoïque là, et puis de... Non mais alléluia, je ne sais pas, moi j'ai envie de crier alléluia, gloire à Dieu, je suis enfant de Dieu. Ou est-ce que c'est devenu quelque chose de banal ? Quelque chose auquel on ne fait même plus attention ? Je suis chrétien, alléluia. Non mais, J'espère encore que c'est l'œuvre de votre vie. D'être sorti de ce monde de misère, d'avoir accepté, d'être passé des ténèbres à la lumière, de Satan à Dieu. Alléluia. Waouh, moi je trouve ça tellement glorieux. Et je ne m'en lasse pas de relire ces textes, je ne m'en lasse pas de dire ces choses. Mais si nous savons qui est Dieu, alors nous savons qui nous sommes. Si nous savons qui nous sommes, eh bien ce que nous sommes va définir ce que nous allons dire, n'est-ce pas? Je fais une petite parenthèse, mais est-ce normal qu'après 15, on va commencer à 1 an, 10 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans de conversion, parfois le langage de certains n'a jamais changé? Est-ce normal qu'on ait encore des mots grossiers, qu'on s'intéresse encore à des blagues vaseuses ou des choses comme ça quand on est chrétien? C'est pratique hein, ce que je dis ce matin, excusez-moi, la réponse elle est en vous-même, je ne demande pas de réponse, évidemment, c'est juste une question. Moi, je crois que si nous savons ce que nous sommes, ça va définir ce que nous allons dire. Et nous savons très bien que si nous sommes en Christ, nous ne dirons plus, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est sur ça qu'il faut travailler. Oui ou non? C'est de la théorie à la pratique. Je dis que je suis enfant de Dieu, ok? Je dis que le Saint-Esprit habite en moi, ok? Je suis le temple du Saint-Esprit, alléluia! Mais si je suis le temple du Saint-Esprit, est-ce que le Saint-Esprit accepte des ordures dans son temple? Est-ce qu'on accepte le langage ordurier? Est-ce qu'on accepte des pensées malsaines? Est-ce que le Saint-Esprit peut vivre avec ça? Non. La Bible nous dit que Dieu ne peut pas supporter le péché dans sa présence. Ah oui, c'est pratique, hein? Mais en même temps, la parole de Dieu est très pratique. Et à un moment donné, il faut qu'on se pose les bonnes questions, il faut qu'on se remette en question aussi. Et puis, si je sais qui je suis, ça va définir ce que je vais dire, et ce que je vais dire va définir ce que je vais faire. Rappelez-vous ce que Jésus dira en Matthieu 23, verset 3, il le dira aux disciples, à la foule, mais faites donc, et en parlant des pharisiens, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Est-ce que nous sommes dans le camp des pharisiens ce matin? Ou est-ce que nous sommes du côté de Christ et nous faisons ce que nous disons? Rappelons-nous que Jésus a envoyé ses disciples, mais avant d'envoyer ses disciples, il a accepté de quitter son ciel de gloire, d'après ce que nous dit le texte des Éphésiens, et il est venu sur la terre, prenant notre condition humaine, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que nous, qui étions pauvres, nous puissions devenir riches en lui. D'abord, Christ a montré l'exemple, et ensuite nous a dit, faites comme moi. Et il nous met en garde contre les pharisiens qui disent, qui disent, qui disent, qui disent, qui disent, mais qui ne font rien de ce qu'ils disent. Quelqu'un a dit un jour avec un peu d'humour, attention, nous avons tous un pharisien qui sommeille en nous. Faites le nécessaire pour qu'il ne se réveille jamais. On dit, mais qu'est-ce qu'on fait au juste? Jésus veut mettre les choses en près de la parole de Dieu en pratique, mais faites donc et observez tout ce qu'ils disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. À nous de choisir notre camp. J'espère qu'il est déjà choisi, et depuis longtemps. Je l'espère, en tout cas profondément, mais la parole de Dieu est pratique, encore une fois. Ok, je suis. J'espère qu'on sait déjà qui on est réellement, qu'on a choisi notre camp dans ce domaine-là, et qu'on l'a choisi définitivement, qu'on n'est pas assis entre deux chaises ce matin. Parce que si jamais mon frère ou ma sœur, ce matin, cher ami, t'étais assis entre deux chaises, arrête tout ce que tu fais et repens-toi. Il n'y a pas d'autre alternative. Pas d'autre alternative. Tu ne peux pas être assis entre deux chaises, tu ne peux pas être un pied dans le monde et un pied dans l'église. Tu ne peux pas dire que tu suis Christ et en même temps aimer un petit peu les choses du monde, aimer sortir, aimer un petit peu la pornographie ou ces choses-là. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu ne peux pas. Soit tu es en Christ, soit tu ne l'es pas. Jésus dira, celui qui ne bâtit pas avec moi, il détruit, n'est-ce pas? C'est concret ou pas? Donc il faut que tu fasses un choix. Il faut d'abord que tu saches qui t'es. Et soit tu es en Christ, soit tu ne l'es pas. Tu ne peux pas faire les deux à la fois. Parce que la Bible, elle dit quoi? Jésus dira dans l'Évangile, dans l'Apocalypse, les tièdes, il les vomira de sa bouche. Vous avez déjà fait l'expérience de prendre un verre d'eau tiède? On s'est trompé, on croyait que c'était de l'eau froide au robinet, puis on a pris un verre d'eau tiède. Mais qu'est-ce qu'on fait au juste en général? Prends le verre d'eau tiède, Souvent, on le rejette tout de suite parce que c'est pas ce qu'on attendait, et puis c'est pas bon. On préfère de l'eau chaude ou de l'eau froide, mais... Jésus nous a donné cet avertissement. Les tièdes, il les vomira de sa bouche. Si t'es dans la tiédeur, je me permets d'être aussi direct parce que je ne vous connais pas. Le Seigneur vous connaît, prenez ce que le Seigneur vous donne directement. Moi, je ne vous connais pas, donc ça me permet d'être assez simple. Mais si t'es tiède, c'est le moment de revenir aux crises de tout ton cœur. Arrête ce que tu veux faire. Arrête de chercher tout un tas de choses parce que déjà, à la base, tu n'es pas juste. Savoir qui nous sommes réellement. Et qui nous sommes réellement, ça ne peut être qu'en Christ. Ou dans le monde, mais pas les deux à la fois. Ensuite, quand tu sais qui t'es réellement, eh bien, ça va définir ce que tu dois dire. Et ce que tu dois dire va dépendre de ce qui t'es. Là encore, il y a un travail à faire. On ne peut pas continuer à dire des choses ou à critiquer son voisin ou à critiquer le pasteur ou à critiquer l'église ou à tout ce que vous voulez bien. Ce n'est pas du tout à ce que nous sommes appelés. Nous sommes appelés à être des sources d'encouragement les uns pour les autres. Je ne dis pas que nous sommes parfaits. Et que nous ne le serons jamais. Nous serons parfaits seulement quand nos yeux verront le Christ. C'est ce que dit la Bible, n'est-ce pas? Mais en attendant, la Bible nous appelle à tendre vers la perfection. Comme l'a dit, on l'a lu avec l'épître de Pierre, « Faites tous vos efforts ». La grande question ce matin qu'on peut se poser, évidemment, encore une fois, la réponse est dans nos cœurs, mais c'est est-ce que je fais aujourd'hui tous les efforts nécessaires, possibles, imaginables, pour ressembler à Christ? Ça nous interpelle, n'est-ce pas? Je l'espère, en tout cas. Et après? Eh bien, après, eh bien, Seigneur, permets-moi d'avoir la force, le courage de mettre en œuvre. D'avoir la force, le courage peut-être d'aller voir mon voisin ou d'être une lumière ou de participer à une soupe populaire ou de montrer que je suis chrétien. Parce que c'est ce que nous faisons qui manifeste aux hommes et aux femmes qui nous entourent le fait que nous soyons chrétiens. Ce n'est pas tellement le fait que tu vas à l'église le dimanche matin. Vous savez, moi j'appelle ça de l'hypocrisie parfois. Les mots sont durs, hein, mais je suis très pratique en fait dans ce que je dis, donc il n'y a pas de problème. Mais souvent on est des hypocrites. On fait semblant. Oh, on est des bons chrétiens, moi j'ai ma Bible à côté de moi, mais tu fais quoi au juste avec ça? J'en parlerai tout à l'heure, à Madagascar, c'est plein d'hypocrisie aussi comme ça. Les cultes, la spiritualité, c'est très compliqué. Mais Dieu nous appelle à être des vrais. Alors si tu veux être vrai, ben, soit tu es vrai d'un côté, soit tu es vrai de l'autre, mais fais pas semblant d'être entre les deux. C'est pire encore que tout. Seigneur, à la rigueur, il te préfère même froid que tiède. Parce qu'au moins tu as choisi ton camp, au moins tu sais ce que t'es. Mais souvent, on se ment à moi-même, on se ment à nous-mêmes, on se voile la face. Parce qu'on fait semblant, mais à un moment donné, on ne sait même plus comment on s'appelle nous-mêmes. Et puis c'est là qu'arrivent les dérives théologiques. C'est là qu'arrivent les inventions humaines. C'est là qu'on se fait un Dieu à notre image. C'est plus nous qui devons être à l'image de Dieu, c'est nous qui nous faisons un Dieu à notre image, pour que Dieu vienne à tout prix nous rejoindre dans ce que nous faisons, pour nous donner bonne conscience, évidemment. Et c'est comme quand on va au McDo et qu'on prend un peu de salade juste pour se donner bonne conscience. D'abord, j'ai un truc qui est super gras, mais il y avait de la salade, c'est bon, quoi. Mais souvent, on se fait un Dieu à notre image. Et c'est la théologie d'aujourd'hui. On s'est fait un Dieu à notre image. Pour que Dieu nous ressemble. Mais la Bible, elle nous dit que c'est nous qui devons ressembler à Dieu. C'est pas Dieu qui doit nous ressembler. C'est nous qui devons être les serviteurs de Dieu, et c'est pas Dieu qui doit devenir notre serviteur. Alors oui, c'est concret, mais c'est ce que dit la Bible. Que Dieu nous aide, n'est-ce pas? Je crois que quand nous écoutons la parole de Dieu, eh bien nous nous rendons compte que nous avons tous une marge de progression, un palier de progression. Soyons, et je termine avec ça, disons et faisons ce que Dieu nous demande, nous inspire et pour sa seule gloire. Pas pour être glorifié en tant qu'être humain, mais pour sa gloire à lui. Et alors nous verrons la gloire de Dieu se manifester. Et alors nous verrons la gloire de Dieu revenir dans l'Église. Et alors nous verrons des miracles, et alors nous verrons des conversions, et alors nous verrons des guérisons. Mais il est temps, je crois vraiment qu'il est temps, dans ces temps de la fin, ces temps où tout dégénère, ces temps où toute même la théologie est malmenée, il est temps de revenir à ce que dit la parole de Dieu. Il est temps d'arrêter de vouloir à tout prix faire des grandes choses, de vouloir tout savoir, surtout, essayons de savoir déjà ce que Dieu nous demande. De manière concrète, de manière personnelle. Et obéissons un petit peu chaque jour, simplement à la base de l'Évangile. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. SK Saint-Louis, Ici, dans l'Église, on a tous de l'amour les uns pour les autres. Grande question, n'est-ce pas? Eh bien, commençons par là. Commençons par là, avant de vouloir faire des actions d'évangélisation dans toute la ville, dans tout machin, dans tout truc, d'être parti à droite, à gauche. Commençons par là. Commençons à nous aimer les uns les autres. Comme Dieu nous a demandé de nous aimer. D'un amour sincère, profond, d'un amour vrai. D'un amour sans arrière-pensée. Je ne parle pas d'une espèce de sensualité du monde. Non, je parle de l'amour de Christ. Qui nous permet d'aimer l'autre tel qu'il est. Est-ce qu'il est normal d'avoir du racisme dans l'Église ? Excusez-moi de toucher à ce point, mais ça c'est un point qui me tient très à cœur. Alors que nous sommes tous frères et sœurs en Christ, alors que nous appartenons tous au même Père, nous avons tous le même Père. Est-ce que c'est normal d'avoir encore du racisme au sein de l'Église ? J'ai entendu dernièrement, excusez-moi de dire ça, mais c'est un pasteur qui disait ça. Frère, c'est pas normal qu'il y ait autant de noirs sur l'estrade. Écoutez-moi bien, ça me dégoûte d'entendre des propos pareils. Ça me dégoûte profondément. Est-ce que notre couleur blanche de peau vaut mieux que les autres? Franchement. Vous savez, on est tous autant pécheurs. Hein. Mais on appartient tous au même Père. Aimons-nous les uns les autres, comme Dieu nous a demandé de nous aimer. Sans arrière-pensée, sans arrière-plan, sans penser qu'il y en a qui sont supérieurs aux autres ou je ne sais quoi encore. Commençons par là. Puis vous verrez, ben, les choses changent. Acceptons de passer de la théorie à la pratique. Que le Seigneur nous aide, on va prier s'il vous plaît, et puis on passera à la présentation de l'ONG. Que le Seigneur nous fasse grâce ce matin. Seigneur, merci pour ta parole. Parce que ta parole, c'est la vérité. Ta parole, elle est bonne, ta parole, elle est parfaite. Ta parole, Seigneur mon Dieu, bien c'est la vie. Et c'est ta présence qui nous rend la vie, Seigneur. C'est ta présence qui crée la vie, Seigneur. Merci de nous faire du bien ce matin, Seigneur. Tu as parlé à nous, Seigneur, d'accepter de prendre ce qui nous importe, ce qui nous incombe, Seigneur. Tu as sûrement touché nos cœurs d'une manière ou d'une autre ce matin. Tu nous as interpellés peut-être de manière concrète dans tel ou tel sujet. Seigneur, fais-nous grâce de ne pas être des auditeurs oublieux. Et que nous puissions, Seigneur, mettre ta parole en pratique. Que nous puissions décider, prendre la décision ce matin, avant de passer cette porte dans ce lieu, de dire, Seigneur, il en est suffisamment. Stop, maintenant je veux mettre ta parole en pratique, quoi qu'il m'en coûte. Parce que c'est là que tu veux envoyer ta bénédiction, dans l'obéissance. Tu nous répètes à maintes reprises, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et tu nous attends sur le terrain de l'obéissance. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce à chacun d'entre nous, à chacune d'entre nous, Seigneur, de mettre ta parole en pratique. Parce que ta parole, elle est la vérité. Que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous donnes notre pain quotidien, mais tu nous dis aussi, pardonnez aux autres comme Dieu vous a pardonné. Donne-nous d'être pratiques. Donne-nous de pas seulement recevoir, mais donne-nous de désirer de donner aussi. À toi soit la gloire. À toi soit l'honneur, Seigneur. Merci pour tout ce que tu vas faire pour chacun d'entre nous, Sauveur. Amen.